Vous vous intéressez ce matin à la Russie, 2 jours après l'annonce de Vladimir Poutine d'annexer 4 territoires ukrainiens. Pour en parler, Esmeralda, une spécialiste de la région.
Oui, Aude Merlin, chargée de cours en sciences politiques à l'Université libre de Bruxelles, spécialiste de la Russie et du Caucase. Madame Merlin, bonjour.
Bonjour.
Alors, l'annexion de ces territoires, c'est fait, hein, même si la communauté internationale ne le reconnaîtra pas. On se demande quelle sera maintenant la prochaine étape et surtout, que font l'Europe et les États-Unis, à part lancer un nouveau train de sanctions ?
Les démocraties ne savent pas parler au régime autoritaire. Elles essayent d'utiliser le dialogue, elles essayent d'utiliser les arguments, elles essayent d'utiliser les textes. Et lorsque les régimes autoritaires en face sont en train de fourbir leurs armes et de recourir au hard power, elles sont souvent très démunies. Alors, c'est comme le disait le dissident Sakharov, un État qui viole massivement les droits humains en son sein finit par devenir une menace pour la sécurité internationale. Et voilà, je pense que là, il y a effectivement un très grand décalage entre les démocraties qui ont pensé pendant des années qu'avec ce régime politique donc russe, on pouvait à la fois faire du commerce et discuter. Mais en réalité, ce régime grossissait. Et ce n'est pas qu'il n'a pas prévenu l'Occident. M. Poutine, depuis 2007, explique ce qu'il veut faire. Il le dit et il le fait.
Alors, dans les faits, il y a aussi 261 000 Russes qui sont partis, refusant la mobilisation, refusant de combattre. Ça, c'était pas prévu dans le plan de Poutine. Sa guerre patriotique, c'est loupé.
Non, ça n'était pas prévu, le départ de ces hommes. Effectivement, M. Poutine vit dans sa propre réalité. C'est-à-dire qu'en fait, il vit dans son propre engouement patriotique, dans son propre revanchisme, et il est persuadé que l'ensemble de la population russe est avec lui et que ceux qui ne sont pas avec lui seraient en fait travaillés par l'Occident, seraient achetés par l'Occident, etc. Le fait que des hommes ayant reçu leur avis de mobilisation mettent le feu à des centres de recrutement militaire n'était pas prévu, de même que des manifestations n'étaient pas prévues. On l'a vu notamment au Daghestan, par exemple, dans les régions qui sont les plus grandes pourvoyeuses, si l'on peut dire, de combattants et qui ont essuyé les pertes les plus importantes. Ce sont les régions les plus pauvres, en fait. Si M. Poutine reste dans la logique dans laquelle il est, effectivement, il ne va pas s'arrêter là. Et le départ de 261 000 hommes, bon, bah, c'est effectivement des hommes qui sont partis, mais il y en a d'autres en Russie.
Mais est-ce qu'on peut dire toutefois aujourd'hui que la population russe se rend compte que c'est une vraie guerre à ses portes, que les hommes sont mobilisés, qu'ils doivent partir et en plus avec leur propre équipement ?
Ah oui, c'est tout à fait ça. La guerre a fait irruption dans l'horizon du pensable des individus. Et pour ceux qui ne sont pas d'ultra-patriotes ou qui simplement ne veulent pas perdre la vie ou ne veulent pas perdre une jambe ou ne veulent pas être traumatisés psychologiquement à vie, ils veulent vivre tout simplement. Parce qu'il y a dans la société russe, il faut le dire, et c'est ce qui se passait entre le 24 février et le 21 septembre, effectivement, les chiffres de soutien à l'opération spéciale sont importants, si tant est qu'ils puissent être crédibles, mais ils sont importants. Mais dans ces chiffres-là, il y a une grande proportion de gens qui, pour eux, être sur leur canapé, regarder la télévision et dire qu'ils soutiennent l'opération spéciale, c'est une chose, mais tout à coup devoir partir avec donc son barda militaire et, comme vous le dites, emporter ses propres chaussettes, sa propre lampe de poche, parce que la vie de mobilisation leur dit de prendre leurs effets personnels, ils ne seront pas chaussés, ils n'auront pas de matériel, il y a un manque d'équipement, et devoir risquer sa vie, c'en est une autre. Et donc c'est là qu'on a vu effectivement une vague de départ de gens qui, en fait, pour rien au monde, ne veulent aller mourir pour un objectif qui leur paraît en fait absurde et qu'ils ne comprennent pas.
Mais des milliers d'hommes qui fuient le pays, c'est quand même une perte économique, et ça n'inquiète pas Vladimir Poutine ?
Le pouvoir russe, les autorités russes ne sont pas dans une rationalité dans laquelle ils mettraient au premier plan le développement de la Russie. Monsieur Poutine a mis son enjeu idéologique, en tout cas son enjeu en termes de revanche, en premier lieu. C'est-à-dire que pour lui, la force vive, la population active, l'économie, la lutte contre la corruption, tout cela n'est pas une priorité. Pour lui, la priorité maintenant, très probablement, c'est de laisser une trace dans l'histoire comme l'homme qui aura agrandi le territoire russe, alors que c'était quand même le plus grand pays du monde, 17 millions de kilomètres carrés, et qui aura pris ce qu'il lui considère une revanche légitime contre l'Occident. Il n'y a aucune estime pour la vie humaine. Les corps des soldats russes ne sont pas tous ramenés dans leur village, dans leur ville, dans leur famille, Ils sont très souvent gardés sur place, enterrés, jetés. On le sait, parce que là encore, s'ils rentraient tous dans les villages, dans les villes, il y aurait plus de contestations, de mobilisations citoyennes. Donc, je suis navrée de répondre à votre question de façon décalée, mais ça n'est pas une préoccupation.
Aude Merlin, merci en tout cas pour cette analyse.